du jour avec le Père Willem.
Des hommes qui ont refusé la barbarie nazie. Le 7 avril 1933, le régime nazi promulgua sa loi cyniquement appelée sur la restauration de la fonction publique avec sa clause arienne interdisant aux non-ariens d'exercer tout poste dans la fonction publique, ce qui incluait professeurs, juges et médecins. En quelques semaines, les juges et les avocats d'origine juive furent mis à la retraite et destitués de leurs fonctions. Les universités furent purgées et les victimes évincées, souvent agressées et déshonorées, sans que s'élève nulle part la moindre protestation. L'université de Francfort fut si durement touchée par les révocations raciales et politiques que l'on évoqua l'éventualité de sa fermeture. Pourtant, dans ce paysage bouleversé, certains chercheurs parvinrent à tirer leur épingle du jeu. Dietrich Bonhoeffer écrit à la hâte des lettres au nom de plusieurs professeurs non-ariens et afficha son soutien aux théologiens Karl Barth et Paul Tillich qui étaient en danger de perdre leur poste universitaire. Mais mis à part ces lettres courageuses, caractéristiques de sa droiture morale, quelle forme l'opposition de Bonhoeffer à Hitler pouvait-elle donc prendre ? Que l'Église évangélique allemande fût une cible majeure pour Hitler était une évidence dès l'origine. Et dès l'origine, Bonhoeffer s'était lancé dans l'action pour contrecarrer les desseins des nazis à son sujet. Pratiquement, tout ce qu'il entreprenait pour maintenir ses contacts œcuméniques, ses études de théologie et son travail pastoral l'opposait aux autorités en voie de nazification de l'Église. En réalité, beaucoup, sinon la plupart des évêques et pasteurs protestants soutenaient le régime. Bonhoeffer fut le témoin de clercs accommodants, usant de faux fuyants lorsqu'ils évoquaient timidement la révision par les nazis de la doctrine de l'Église, se félicitant du projet hitlérien de transformation de la Fédération des Églises en une seule et même Église soumise au Reich, et mettant en œuvre avec zèle les prescriptions nazies sur l'administration de l'Église à tous les niveaux. Publiquement et avec énergie, Bonhoeffer et quelques autres pasteurs vigilants essayèrent d'amener leurs collègues à s'opposer à l'application de la clause arienne dans l'Église évangélique allemande et à résister aux tentatives des pasteurs nazis d'imposer leurs normes antisémites. Mais ce n'était pas facile. Certains chrétiens allemands n'avaient jamais caché leur fierté de se proclamer la SA, la garde spéciale du Christ, et ils avaient une attitude sans pitié. Une histoire de 1934, maintes fois racontée, veut qu'un pasteur de Breslau ouvre l'office du dimanche en demandant à tous les non-ariens de quitter l'office. Il répète l'ordre 3 fois et la personne sur la croix disparaît. La personne sur la croix, c'est le Christ qui disparaît. En lisant les écrits de ce pasteur luthérien allemand, à la fois théologien, résistant et prophète, qui fut pendu sous la tyrannie d'Hitler, pour être resté debout sous le regard aimant de Dieu, nous comprenons mieux ce que le Père révélé par Jésus attendait de nous tous, être responsables de tant d'amour reçu. Dietrich Bonhoeffer est né en 1906 à Breslau, aujourd'hui Wrocław, en Pologne. Il est l'avant-dernier d'une famille de 8 enfants. Ses parents, qui font partie de la grande bourgeoisie intellectuelle allemande, déménagent en 1932 à Berlin. Dietrich, qui a reçu une éducation religieuse, luthérienne, décide à 17 ans de devenir théologien. Ses études effectuées à Tübingen, Rome et Berlin sont couronnées par un doctorat de théologie sur la communion des saints. Un voyage d'études à New York en 1931 lui fait découvrir le scandale de la ségrégation raciale et la prédication ainsi que la liturgie noire américaine. Pasteur et professeur d'université, Bonhoeffer s'active aussi dans le dialogue œcuménique. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il entre aussitôt en résistance et rompt avec son Église qui, sous l'injonction des nazis, interdit les pasteurs d'origine juive. Celui-là seul qui crie en faveur des juifs a le droit de chanter grégorien, déclare-t-il, sans se soucier du danger qu'il court. Pressentant le drame qui vient, il retrouve une foi plus personnelle, se ressource en méditant la Bible et redécouvre la force de la prière. « C'est par la prière que tu deviendras fort », écrira-t-il un jour. En 1935, il dirige dans le nord de l'Allemagne un séminaire de jeunes pasteurs de l'Église confessante qu'il a contribué à créer. Jugé illégal, elle est fermée en 1937 sur l'ordre Himmler, chef des SS. Le pasteur est désormais dans le collimateur du régime. En 1936, il est interdit d'enseignement à l'université, puis de séjour à Berlin en 1938. Il part donner des conférences aux États-Unis, mais quand en 1939 la guerre éclate, il rentre en Allemagne pour, explique-t-il, partager les épreuves et la culpabilité de mon peuple. Bien qu'il n'ait plus le droit de s'exprimer en public, et malgré la surveillance policière dont il fait l'objet, Dietrich Bonhoeffer entre dans la résistance active. Il rejoint le réseau clandestin dirigé par l'amiral Canaris et le général Oster qui fomente un attentat contre Hitler. Arrêté par la Gestapo le 5 avril 1943, Bonhoeffer, qui venait de se fiancer avec cette charmante Maria von Wedermeyer, est incarcéré dans une prison militaire. Durant sa captivité, il écrit de nombreuses lettres à sa fiancée et à son élève et ami Eberhard Bethge. Ce dernier, après la guerre, publiera cette correspondance sous le titre « Résistance et soumission ». Bonhoeffer y poursuit sa réflexion sur la vocation singulière du chrétien dans un monde qui, pressent-il, va de plus en plus s'émanciper de Dieu. Loin d'appeler les chrétiens à repartir en croisade contre la sécularisation ou à s'exiler par mépris de ce monde sans Dieu, il leur conseille d'expérimenter le martyre spirituel qu'il éprouve, lui, derrière les barreaux de sa prison. La Bible renvoie l'homme à la faiblesse, à la souffrance de Dieu, dit-il. Seul le Dieu souffrant peut nous venir en aide. »